Bonjour et bienvenue dans The Banana Split Project, le podcast qui épluche l'identité de ces Français d'origine asiatique, autrement dit bananes, revenus vivre en Asie. Aujourd'hui, pour ce 13e épisode, et en plein confinement en France, je vous propose de voyager. Je sens que vous en avez besoin et je vous propose d'accueillir un profil très métissé qui va nous emmener à travers trois continents. Aujourd'hui, je suis avec Vincent On. Il est métisse, à trois quarts vietnamien et un quart espagnol. Il est né en France, il a grandi en région parisienne. Il a ensuite travaillé quelques années à Boston, puis s'est installé il y a 11 ans à Singapour, où il est marié à une Singapourienne. Mais que faisait donc son grand-père espagnol au Vietnam? Avez-vous déjà entendu parler de ces soldats blancs d'Ho Chi Minh? Lorsqu'on est métisse, est-on mieux assimilé dans l'une ou l'autre culture d'appartenance, ou reste-t-on toujours l'étranger? Et depuis Singapour, comment voit-il le Vietnam et quelle relation entretient-il avec ce pays? Nous parlerons aussi ensemble communautarisme et comparerons les modèles américains et français. Voilà, c'est un épisode riche, intense que je vous propose. C'est parti. Bonjour Vincent.
Bonjour Viviane. Ouais, en fait, donc moi je suis eurasien, donc je suis métisse. Ma mère est aussi eurasienne, métisse. Donc si on remonte à mes grands-parents, donc mon grand-père est espagnol, ma grand-mère est vietnamienne. Donc ma mère est eurasienne, espagnole, vietnamienne. Mon père est vietnamien, chinois-vietnamien pour être complet. Moi, ça fait que je suis, dans mon sang, c'est chinois, vietnamien et espagnol. Je suis né en France, j'ai grandi en France et je suis de culture française.
Donc comment ça s'est passé pour toi à l'école en France? Comment tu as vécu ta scolarité?
Étant eurasien, c'était un peu spécial parce que en France, je suis vu en fait pas comme un eurasien, mais comme un asiatique. Comme un chinois, en fait. Ils veulent toujours nous mettre dans des cases et tout ça. Ouais. Donc, moi, la case qu'ils ont choisie, c'est chinois.
Il n'y a pas de case eurasien. Contrairement à Singapour, où il y a une case eurasien quand on coche l'arrivée sur le passeport.
Exactement, enfin, ouais. Et donc, voilà. Donc, j'ai grandi en France, en tant que asiatique. En fait, moi, j'ai grandi, dans les banlieues parisiennes où, il y a beaucoup de minorités. Les minorités sont même une majorité, j'ai envie de dire, où il y a moins de Français blancs. C'était normal d'être avec toutes ces minorités et d'être différent, entre guillemets.
D'accord, donc vous étiez assez mixte, c'est ça? C'est un environnement de brassage, de banlieue.
Exactement. Ouais.
Donc, des Asiatiques, des Arabes.
Voilà, ouais, c'est ça. Des Africains, des Arabes. Ouais. Et en termes de discrimination, les Asiatiques en subissent moins par rapport aux Arabes ou aux Africains. Pour moi, j'ai envie de dire, c'était plus facile. Quand j'ai eu droit au Bruce Lee, j'ai eu droit au Ching Chong... Mais bon, après voilà, quoi, c'était au début, et après c'est des choses qui s'effacent avec le temps.
Mais c'est quand même marquant. Enfin,
oui,
ça paraît ordinaire et on dit que tout le monde l'a vécu, mais est-ce que c'est normal? Enfin,
non, c'est absolument pas normal. Hein, je suis entièrement d'accord, ça excuse pas en fait. Mm. Mais après, je pense que quand je compare avec mes amis arabes et africains, leurs discriminations sont beaucoup plus poignantes en fait par rapport aux nôtres.
Ta mère aussi était déjà métisse, elle a grandi au Vietnam. Est-ce que tu peux, est-ce qu'elle t'a raconté, elle, comment elle avait vécu le fait d'être métisse au Vietnam?
Donc, pour ma mère, en fait, et pour mes parents en général, la discrimination était beaucoup plus forte. Le racisme, la discrimination dans les années 80, dans les années 70, a été beaucoup plus forte que ce que j'ai vécu. Elle, par rapport au Vietnam, elle a quitté le Vietnam à cause de la guerre.
À quel âge?
Donc, elle a quitté très jeune, en fait. Mmh. Elle avait quitté à 5-6 ans. Après, être métisse au Vietnam, c'était un peu spécial. Mon grand-père, en fait, vivait au Vietnam depuis 20 ans. Donc, il était presque vietnamien déjà.
Et il venait de Chine, en fait, c'est ça?
Non.
Ah non, pardon, ton grand-père espagnol, ouais, donc, je me suis perdu.
Exactement, voilà. Ouais. Donc, en fait, mon grand-père était légionnaire pour l'armée française. Et donc, il a débarqué après la Seconde Guerre mondiale, en 45 au Vietnam. Enfin, à l'époque, la Légion étrangère au Vietnam, le but, c'était plutôt de faire des expéditions punitives contre le Viet Minh et le régime d'Ho Chi Minh. Et donc, lui, en fait, il a déserté la Légion étrangère pour rejoindre l'armée d'Ho Chi Minh, en fait.
Ah, et donc, par idéologie.
Exactement. Donc, en fait, il a énormément assimilé avec la culture vietnamienne et les Vietnamiens, parce qu'il combattait avec eux. Donc, ouais, il est devenu un des soldats, ce qu'on appelle les soldats blancs d'Ho Chi Minh, et il a combattu avec les Viet Minh pendant la guerre contre les Français.
D'accord, incroyable. Donc, il est d'abord entré dans la Légion étrangère, il a déserté.
Et donc, c'est comme ça qu'il a rencontré ma grand-mère, et c'est comme ça que ma mère est née. Et ensuite, il y a eu l'armistice du général de Gaulle pour les déserteurs. Donc, il a pu revenir en France avec sa famille, donc avec ma grand-mère et ma mère. C'était ça l'histoire. Donc elle l'a vécu, 5-6 ans, elle était super jeune, mm-hmm. mais elle a pas vraiment vécu de discrimination au Vietnam à cette époque-là, quoi. Mm-hmm. C'était trop jeune. C'est quand elle est arrivée en France qu'elle est, qu'elle a vécu les discriminations à l'école, parce que déjà, un, elle parlait pas français. Donc elle a dû apprendre le français. Deux, elle était différente. Enfin, elle avait des longs cheveux, par exemple. Elle me disait qu'elle se faisait tout le temps tirer les cheveux, que les gens, les gamins la faisaient tomber tout le temps par terre. Ils se moquaient d'elle parce qu'elle parlait pas bien le français. Ils se moquaient de ses parents, notamment ma grand-mère, parce que ma grand-mère ne parlait pas français aussi. On a tué son chien quand elle était adolescente. Donc en fait, elle a eu droit à des discriminations beaucoup plus dures que ce que j'ai pu vivre aujourd'hui dans les années 90 en France. Pour ça, faut relativiser quand on nous dit oui, Bruce Lee, Ching Chong, ouais, c'est méchant, c'est pas bien, tu vois, mais faut relativiser par rapport à ce que d'autres minorités et nos parents ont vécu. Ça n'excuse pas, mais c'est relatif.
Et ils ont choisi la France quand même, malgré ce passé et malgré le fait
Parce qu'en fait, c'est dû à l'armistice de Gaulle, en fait. Donc, c'est pour ça qu'ils sont rentrés en France.
Ouais.
Mon grand-père était français, il est rentré. Même s'il était d'origine espagnole, il est rentré en France, donc, pour fuir la guerre. Parce qu'en fait, il y avait les Américains qui arrivaient à ce moment-là et c'était la guerre entre le nord et le sud du Vietnam. Donc, c'était pas un endroit où il fallait rester à cette époque-là.
Et toute cette histoire, tu l'as découverte au fur et à mesure ou tes parents te l'ont transmise?
Oui, c'est mes parents et mes grands-parents qui m'ont transmise, exactement.
Donc c'était assez ouvert chez toi, la discussion autour de la guerre, il n'y a pas de tabou, de traumatisme qui était difficile à passer. C'est bien d'avoir eu la chance de connaître cette histoire depuis l'enfance et de grandir en intégrant tout ça déjà.
Exact. Bah, en fait, comme ma mère est déjà métisse, elle a quand même une forte influence française, donc elle est moins traditionnelle que mon père, par exemple. Mon père est très vietnamien, il a une histoire vraiment différente. Lui, c'est à l'inverse, il vient du sud Vietnam, il a fui la guerre dans la fin des années 70, réfugié politique en France. Et lui, en fait, il a été victime du régime nord-vietnamien. Il s'est réfugié en France, mes grands-parents l'ont envoyé ici, et il a fini ses études ici, et il a commencé à travailler ici. Il avait une éducation très vietnamienne, très traditionnelle, complètement différente de ma mère qui a grandi en France plus ou moins et française déjà.
Du coup, à la maison, est-ce que la langue parlée était uniquement le français ou est-ce qu'il y avait quand même un petit peu de dialecte ou de vietnamien?
Non, les deux, exactement. Donc, vietnamien et français. Voilà, exactement. Parce que ma grand-mère ne parlait que viet et elle vivait avec nous. Français aussi, parce qu'en fait, mon éducation était en français.
Tu es arrivé à Singapour il y a 11 ans. Qu'est-ce qui a motivé cette démarche? C'était une opportunité professionnelle ou
Exactement. Ouais. Donc en fait, moi à la base, j'ai quitté la France pour les États-Unis pour un VIE. J'ai travaillé 2 ans aux États-Unis. Ensuite, c'était une expérience super enrichissante pour moi. Je voulais continuer cette expérience à l'étranger. Je voulais pas rentrer en France. Et j'ai eu cette opportunité à Singapour. Pour moi, en fait, c'était une manière de me rapprocher de mes racines. J'avais jamais été au Vietnam, par exemple. Donc, pour moi, en fait, travailler à Singapour, ça signifiait, en fait, me rapprocher de mes racines asiatiques et aussi, potentiellement, de reconnecter avec le Vietnam.
Donc, et tu le fais?
Oui, tout à fait. J'y vais tous les ans. J'ai de la famille là-bas. Donc voilà, c'est vraiment professionnel. Mais c'est vrai que derrière, le fait que je sois eurasien, c'est une raison de plus pour moi de venir en Asie.
Ça suffit une recherche de tes racines, de comprendre et de retrouver un petit peu la famille. Tes parents, ils ont compris cette démarche, ils t'ont encouragé ou...
Ils ont toujours l'espoir, même aujourd'hui, que je rentre en France avec eux. Mes parents vivent toujours en France, donc ils ont toujours cet espoir que je rentre. Après, ils comprennent absolument que pour mon développement, pour ma carrière, l'Asie est plus porteur que la France.
Et comment tu te sens ici en Asie? Est-ce que on te traitait d'asiatique? Enfin, en tout cas, tu étais perçu comme asiatique plutôt en France, tu me disais. Est-ce qu'ici, tu es perçu comme un asiatique ou comme un métis ou...
Ouais, voilà. Donc, en fait, c'est marrant parce que ici, je suis vu comme l'autre, en fait. Moi, je suis toujours vu comme l'autre, peu importe, en fait. Parce que quand je suis en France, je suis vu comme l'autre, l'asiatique. Mais ici, en fait, ils me voient plus comme le western guy, le Hong Mo. Quand je suis à Hong Kong, ils me voient comme le Guaylo. C'est vraiment l'autre. Donc, ils voient l'autre partie de moi.
C'est drôle, hein.
Ouais, et donc pareil, ils ont le même problème. En fait, ils ont toujours aussi, même à Singapour, c'est vrai qu'il y a une communauté eurasienne, mais il y a quand même beaucoup de gens qui n'arrivent pas à me placer. Ils ont besoin de me mettre dans une case, donc ils vont me mettre dans la case en mots.
Et pas eurasien, parce qu'ici, les eurasiens, c'est très spécifique à Singapour. Ouais. Ça signifie le mélange entre la population chinoise et portugaise à l'époque, c'est ça?
C'est ça, ouais, exactement. Ouais. C'est ça qui m'a surpris quand je suis venu à Singapour, c'est que y a une communauté eurasienne ici. Et qui a une histoire, et donc voilà, ça m'a vraiment surpris. Et donc en fait, c'est un peu plus commun en fait les Eurasiens ici. C'est vrai que la majorité quand même est 70% chinois. Et en fait, comme je suis pas un chinois pur, donc ils me considèrent comme un anglais.
Tu travailles dans une société internationale ou
exactement, ouais. Je travaille dans une société en fait dans une société fintech anglaise internationale. Donc ça, j'ai toujours travaillé dans la fintech depuis 11 ans, depuis que je suis à Singapour. Et donc oui, non, aujourd'hui c'est très international, donc ça me pose aucun problème. Et c'est plutôt plus à mon avantage dans le sens où ça fait discuter, ça fait...
Les gens sont curieux.
Voilà, ça développe la curiosité, ils comprennent, ils n'arrivent pas à me placer, en plus par rapport à mon accent.
Ton accent anglais est plutôt américain parce que tu as passé 2 ans aux États-Unis.
Ouais, enfin, c'est pas un accent français typique, non, en fait. Ouais. Voilà, j'ai pas un accent fort en français. Donc ils n'arrivent pas, quand je leur dis que je suis français, ils n'arrivent pas à me placer non plus parce qu'ils n'entendent pas l'accent français.
Ça t'embête ou tu en joues, tu en
vis? Non, j'en joue, en fait. Ouais, ouais. Ouais, ça m'embête absolument pas. Je l'assume entièrement, en fait. Mm-hmm. C'est ma nature.
Oui, c'est ça.
C'est moi, en fait. Mm-hmm. Je suis ni français, ni, vietnamien, ni singapourien. Mm-hmm. Je suis eurasien, je suis mix. Et c'est ça qui fait,
la richesse.
Ma richesse, ouais, voilà.
Tu t'es bien intégré à Singapour. Tu as des amis singapouriens. Tu t'es même marié, je crois, avec une singapourienne.
Exactement, ouais. Donc moi, en termes d'intégration, je pense que ça va. Je suis assez bien intégré. J'ai eu ma résidence permanente. Je suis marié avec une singapourienne. J'ai des amis singapouriens. J'ai un cercle d'amis proches à Singapour, qui est très important en termes de support, en fait. Quand on est loin de sa famille, loin de ses anciens amis, c'est quand même assez important. Et j'ai tout ça, en fait, à Singapour. J'ai recréé ma vie ici, en fait.
Et donc, tes amis sont plutôt singapouriens, français, mélangés,
enfin... Majoritairement français. Après, j'ai des amis singapouriens aussi. J'ai ma femme aussi qui est singapourienne. Par ses amis aussi, j'ai rencontré beaucoup de singapouriens aussi.
Et comment ça se passe avec la famille de ta femme? Comment est-on perçu? Toi, tu as été le français, le hangmo.
C'est ça, le hangmo, ouais. Exactement. D'accord. Ils m'ont perçu comme le hangmo, le français qui vient avec sa culture western en Asie.
Et le côté vietnamien, ça les intéresse?
Ben, ils le voient aussi, mais c'est pas ce qui les a marqué le plus. Parce que c'est vrai, de culture, je suis avant tout français. Et pas vietnamien.
Est-ce que tu connectes avec le groupe des bananes à Singapour? Est-ce que tu fais partie de cette communauté?
Oui, oui, absolument. Ouais. Même s'il faut que je m'investisse un peu plus, mais oui, oui, j'ai joué au paintball ce week-end avec eux. Et donc ouais, non, c'est bah, j'aime bien connecter avec eux parce que on est plus ou moins pareil entre guillemets. Même si moi, ça, en fait, pour moi, banane, en fait, c'est la mixité entre West et East. Mm-hmm. C'est vraiment l'Asie et l'Occident ensemble. Après moi, ça s'exprime physiquement, mais eux, quand je leur parle, je vois très bien que ils sont mixtes dans leurs influences, dans leur façon d'être.
Chez toi, c'est bien équilibré, tout ça, ça s'harmonise ou il y a un conflit interne?
Non, c'est complètement intégré en fait. Bah voilà quoi, moi je célèbre Noël. Je suis pas chrétien, mais on célèbre Noël parce que c'est dans la culture française. Mais en même temps, je célèbre aussi la fête du Tet. Voilà, le Nouvel An vietnamien. Voilà, je faisais la prière quand j'étais petit pour par rapport aux anciens. Il y a tout ça en fait. J'allais à la pagode. C'est ça, c'est le côté vietnamien en fait.
Et quel rapport tu entretiens avec le Vietnam? Est-ce que tu y vas souvent? Tu vois ta famille régulièrement?
Ouais, donc en fait j'ai toujours de la famille. J'ai des oncles, des tantes, des cousins qui vivent à Ho Chi Minh. Et donc je vais les voir tous les ans. Donc voilà, ils viennent aussi à Singapour. C'est plutôt sympa parce que quand je vivais en France, c'était tellement loin que je ne pouvais pas.
C'est bien de pouvoir reconnecter. C'est ça. Vous arrivez à discuter en vietnamien. Tu as un niveau suffisant.
Donc mon niveau de vietnamien est assez pourri. donc on fait en anglais.
D'accord.
Parce que sinon il se moque de moi en fait.
Tu sens un fossé, quand même un décalage du fait que tu as grandi en France où finalement les liens de la famille sont plus forts et vous allez au-delà de toutes ces différences.
Pour eux, en fait, ils sont vietnamiens. Donc, ils ont grandi au Vietnam. Et le fait que nous, on soit partis en France et en Europe, ça leur pose aucun problème. Ils savent très bien que ma culture n'est pas vietnamienne, que ma culture est occidentale. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils me montrent un peu plus la culture vietnamienne, m'apprennent un peu plus sur la culture vietnamienne qui fait partie de mon identité. Donc, c'est enrichissant des deux côtés.
Et est-ce que toi, tu as envie un jour de t'investir plus pour développer le pays? Comment tu vois l'avenir pour le Vietnam? C'est un pays en pleine expansion.
Ouais. Donc le Vietnam, c'est un pays en pleine expansion. Il y a énormément d'opportunités qui se créent là-bas. Après, en termes d'investissement, ouais, c'est aussi quelque chose que je considère, investir au Vietnam. Pourquoi pas passer ma retraite au Vietnam?
Vincent, tu as passé 2 ans aux États-Unis. Tu étais à Boston, c'est ça, tu m'as dit?
Exactement, ouais.
Et là-bas, comment ça s'est présenté? Comment a été ton expérience en tant que métis, asiatique, français, espagnol?
super enrichissante. Nouvelle culture. Oui, donc quand je suis arrivé là-bas, donc c'était mon premier job en VIE là-bas. Et en fait, aux États-Unis, la question raciale est quand même une question, un débat super important. Il y a énormément de communautés, que ça soit les Africains américains, que ça soit les Asiatiques américains, que ça soit les Latino-américains. Ouais. Et donc oui, donc pour moi, quand je suis arrivé, pareil en fait, quand ils m'ont vu, ils n'arrivaient pas à me placer. Ouais. Donc déjà, eux, ce qu'ils voyaient, c'était le côté hispano. Voilà.
Ah, c'est drôle.
Donc, en fait, on parlait beaucoup en espagnol. Et donc, ouais, voilà, et on voyait le côté hispanique, en fait.
Donc, ça, c'est de la part des hispaniques sur place qui ils te reconnaissaient,
exactement,
c'est ça?
Exactement.
Ah, d'accord.
Ouais. Et donc, en fait, et même les Américains, en fait.
Ah,
les
oui.
Américains, bizarrement.
Ah, ouais, d'accord.
Donc, on voyait moins le côté asiatique, bizarrement.
Donc, c'est une question de contexte. Et,
c'est une question de contexte.
Ouais, c'est fou. Ouais.
On n'arrivait pas à me placer, donc, on me demandait d'où je venais. Donc, ouais. Je leur disais, bah, je suis français. Mm-hmm. Et en fait, pour eux, un français, c'est un blanc avec une baguette et un béret. Et donc, ils ne comprenaient pas. Donc après, quand je leur expliquais mon background, ils disaient, ah, ok, d'accord, maintenant, je comprends. Mais ils intégraient pas le fait que je sois français, mais plus que j'étais asiatique. Ils disaient, ah, en fait, t'es un asiatique. Je fais, mais non, mais en fait, je suis français. Et en fait, c'est justement en étant à l'étranger, c'est là où j'ai plutôt affirmé mon identité française, en fait. Alors qu'en France, l'image qu'on me rejetait, c'était une image asiatique. On me disait, mais non, mais t'es asiatique. Forcément, on l'assimile au bout d'un moment. Mais quand je suis parti à l'étranger, c'est là où j'ai vraiment affirmé mon identité française, ma culture française.
Et comment tu le revendiquais, alors, par rapport aux Américains? Qu'est-ce que tu montrais de français?
Ben, en fait, je faisais même pas exprès, en fait. Mmh. C'était juste dans mon comportement, dans ma façon d'être, qui était la même chose que n'importe quel français, tout simplement. Mmh. Donc, j'avais pas besoin de me forcer. Les gens le voyaient par rapport à mon accent aussi. J'ouvrais ma bouche, ils savaient direct que j'étais français. Là, je pouvais pas trahir.
tu pouvais pas passer pour un asiatique américain.
Ah non, exemple. Absolument pas.
À cause de la langue.
Et même dans la culture, en fait, dans la façon de voir les choses et tout, c'était français, 100%.
Et les Français que tu as pu rencontrer aux États-Unis, ils avaient des questions aussi?
Donc eux, pour le coup, les Français à l'étranger sont très communautaires. Pour eux, j'étais un des leurs. Parce que dès qu'ils m'ont vu, ils voyaient plus le côté asiatique, ils voyaient, ah, mais t'es français, okay. Tu viens de Paris. Et là, je dis, bah ouais.
J'aime bien opposer ou comparer en tout cas le système éducatif français, le système américain et le système politique, dans le sens où toute cette discrimination positive qu'il y a aux États-Unis, elle est politique, elle est publique. Comme tu disais, le débat racial est complètement intégré, normal. En France, au contraire, j'ai l'impression, je sais pas ce que t'en penses, que on essaye de mettre tout le monde dans une case, la case française, et que finalement, ça permet à la fois d'égaliser, mais aussi de gommer peut-être certaines différences.
Ouais, non, absolument. Donc en fait, en France, il y a un très gros travail d'intégration qui est fait, donc par l'école, tout simplement, où tout le monde doit parler français, tout le monde apprend la même l'histoire de France. Donc ouais, c'est ça qui fait que peu importe d'où on vient, qu'on ait un background asiatique, arabe, africain, on va apprendre la même chose et on va se sentir français, en fait. Donc on va avoir une intégration avec la France qui est quand même très forte. On retrouve pas forcément aux États-Unis. Mmh. Aux États-Unis, alors oui, il y a des. En fait, les États-Unis, la grosse différence, c'est que c'est un pays énorme. C'est presque la taille d'un continent, en fait. Mmh. Il y a des choses qui rallient les Américains, comme le drapeau, comme le national anthem, l'hymne national. Ça, c'est des choses qui rallient les Américains. Mmh. Mais après, c'est tellement énorme qu'il y a, malheureusement, il y a beaucoup de communautés, donc communautés hispaniques qui revendiquent, ils ont même des chaînes de télé que pour eux, ils ont des publicités qui les targetent simplement eux, la communauté afro-américaine, il y a des écoles où c'est que pour les afro-américains, et la communauté asiatique maintenant, qui commence à être vraiment dominante, notamment dans l'ouest des États-Unis, où maintenant il y a des villes où c'est écrit qu'en vietnamien, par exemple.
Ah bon, où ça?
Du côté de...
De San José?
Non, de San José, dans la vallée, en fait, là, il y a des villes, c'est écrit qu'en vietnamien, tout est en vietnamien. Ben parce qu'en fait, il y a que des Vietnamiens qui vivent. Mais donc, il y a ce côté communautaire, en fait, qui est très, très fort. Mais bizarrement aussi, quand ils sortent, par exemple, des États-Unis et qu'ils vont en France, ils sont très étonnés que nous, on dise, bah voilà, moi, je suis pas Vietnamien, mais je suis français. Eux, ça les étonne. Ou même pour un Africain-Américain, ils vont être très étonnés qu'ils disent qu'ils soient pas Africains, mais qu'ils soient Français. Donc, ça les étonne qu'on n'ait pas cette appartenance, en fait. Nous, notre appartenance, elle est française avant tout.
Oui.
Eux, ils placent leur race, leur culture en premier.
Je pense qu'il y a un équilibre à trouver, peut-être entre les deux. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir ce moule intégrateur parce que ça facilite le vivre ensemble, la communauté de valeurs, la culture commune, ça permet de se comprendre en France. Toutefois, je me demande si on n'est pas en train de d'effacer un petit peu les différences culturelles et ouais. qu'à un moment donné, les gens cherchent quand même à les revendiquer, à les exprimer et que ça peut aller à ce moment-là au conflit lorsque certaines particularités ne sont pas reconnues. Bon,
après, c'est difficile d'effacer quelque chose qu'on porte physiquement. Quand même. Si on le porte physiquement, on peut pas l'effacer en fait. Donc, ouais. Ça fait partie intégrante de nous. Donc, en France, l'intégration culturelle existe, mais après, on a toujours une part de nous qui représente là d'où on vient. Par contre, là, c'est vrai que et c'est valable pour toutes les minorités. J'ai envie de dire, l'histoire de France, moi, elle me parle pas parce que c'est pas mon histoire entre guillemets. Mais après, on l'apprend. On apprend, ça fait partie de notre culture et c'est comme ça quoi. Mais c'est vrai que moi, mes ancêtres, c'est pas Berchin.
Et moi, j'ai mis du temps à m'en rendre compte en fait de ça. C'est vrai que j'ai absorbé toute cette histoire. Bon élève, j'ai tout appris correctement mes leçons, mais je n'ai pas fait le lien que en fait mes ancêtres n'ont rien à faire dans cette histoire. Tu vois, je ne me suis pas posé ces questions.
Mais c'est là où le rôle après de l'éducation à la maison rentre en jeu. Moi, mes parents m'ont envoyé pour prendre des cours de vietnamien où j'ai appris l'histoire du Vietnam. Je comprends mon origine, en fait. Je sais d'où je viens, je sais pourquoi je suis là, pourquoi, et je comprends l'histoire du Vietnam.
Donc, ça, c'était à Paris, il y avait une école vietnamienne.
Exactement. D'accord. Ouais, Paris 13.
Donc, tous les samedis, tu allais apprendre le vietnamien et l'histoire du Vietnam.
Je pense qu'il y en a beaucoup dans la communauté vietnamienne qui connaissent. Donc, voilà, c'est la grosse différence entre la France et les États-Unis sur les minorités. Par contre, un Américain, asiatique-américain qui va au Vietnam, bah, il se revendique pas vietnamien, il arrête, il se revendique en tant qu'américain.
Notre dernier invité nous parlait d'un livre qui s'appelle « Le futur est asiatique ». Qu'est-ce que tu en penses? Je sais pas si tu l'as lu, mais en tout cas, j'aime bien le titre, il résonne.
Non, je l'ai pas lu. Mais après, ce que ça m'évoque, c'est que l'Asie, ouais, clairement, l'Asie va prendre une place plus importante dans le monde. Ça, c'est sûr, que ça soit en termes de business, en termes de tourisme. Après, je pense pas que ça soit... Le futur est simplement asiatique, ça va être très mix en fait.
Ouais, je pense aussi qu'on est en train de créer justement cette troisième culture, ou en tout cas un brassage de cultures.
Moi, je rencontre de plus en plus de gens mix, pas forcément eurasiens. Moi, je rencontre des gens qui sont mix asiatiques, africains, latino, asiatiques. Donc ouais, donc il y a la mixité, elle se fait dans tous les sens. Et je pense que c'est plus ça le futur. En fait.
Notre communauté n'est pas très bien représentée encore. Sur la scène publique, on entend beaucoup plus parler d'autres minorités qui prennent le devant, qui expriment leur malaise ou au contraire les influences et puis leurs ambitions. Ouais. Comment se fait-il que nous, les Asiatiques français ou européens ou américains, nous ne soyons pas aussi bien représentés? Alors, américains, c'est peut-être encore différent. Mais...
Ouais, comment ça se fait? Je pense que c'est une miss opportunity, en fait, dans le sens où quand on voit le succès de Crazy Rich Asian, voilà, en fait, ça en dit long, dans le sens où... aujourd'hui, les médias n'ont pas forcément compris qu'il fallait une représentation pour la communauté asiatique. Mais je pense qu'ils vont comprendre rapidement. Quand ils vont commencer à se mettre là-dedans, ils vont comprendre qu'en fait, il y a une grosse opportunité pour eux. Et pour nous, en fait, parce qu'en termes d'identité, pour les enfants aussi, ils veulent se voir dans un héros asiatique, ils veulent se voir dans une icône asiatique. Culturellement, les Asiatiques ne se mettent pas souvent en avant aussi. Faut mettre ça dans le contexte. Vrai. C'est aussi ça, il faudrait qu'il y ait plus d'Asiatiques qui se mettent dans le cinéma, qui se mettent dans le théâtre, qui se mettent dans la musique. Plus il y aura d'Asiatiques dans ces milieux-là, et forcément, il y aura forcément l'émergence d'une icône asiatique. Culturellement, en fait, les Asiatiques ne se tournent pas vers les arts. Ben voilà, les parents leur disent non, ça va pas payer, il y a des grandes chances que tu gagnes mal ta vie, donc ne le fais pas.
Toi aussi, tu as entendu ça?
Ben oui. Donc, naturellement, il y a moins d'Asiatiques dans ces milieux-là. Après, je pense que c'est quelque chose qui va
changer.
Voilà. Ouais. Ben, on le voit en France, on le voit aux États-Unis, même dans la scène politique, on commence à le voir. Une fois que les médias, la société comprendra qu'il faut représenter la communauté asiatique, que ça soit sur la scène politique, que ça soit sur la scène médiatique, au cinéma, ça va payer, quoi.
En tout cas, merci pour ton témoignage. Et c'est vrai que ce podcast, c'est aussi l'occasion pour moi d'essayer de mettre en avant ces paroles et de mettre en avant tous ces profils pour qu'on ait une représentation, pour qu'on soit entendu, pour que les gens nous connaissent, nous comprennent. Parce que c'est le point de départ de la conversation, de l'intégration, en fait. Et oser parler de tout ce qu'on a vécu, de tout ce qu'on ressent et comment on vit les choses ici en Asie. Merci Vincent pour cet épisode vraiment riche. J'espère qu'on n'a pas perdu tous nos auditeurs entre le Vietnam, l'Espagne, la France, les États-Unis.
Grave.
En tout cas, toi, tu t'en sors très bien. Tu as réussi à faire un équilibre savant de tout cela. Et tu es heureux et c'est l'essentiel.
C'est ça. C'est ce qui nous rend tous différents. On a tous nos propres histoires. Ben, merci en tout cas.
Merci Vincent.
Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à nous mettre des étoiles et à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram, @banana.split.project, pour voir des vidéos de nos invités, des petites vidéos bonus, ainsi que des petites vidéos explicatives que je mettrai désormais sur certains sujets pour approfondir un petit peu des points de l'histoire. Merci, à bientôt !